France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Vous connaissez évidemment celle qui est verte, qui court dans l'herbe, que l'on attrape par la queue, que l'on montre à ces messieurs, lesquels messieurs vous disent « Trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. » La comptine, selon les versions, est plus ou moins joyeuse. Mais il y a d'autres souris, et non vertes, et qui ne courent plus dans l'herbe. Des souris sur lesquelles on pratique des expériences. Des souris d'autres couleurs, jaune, noir. Et Jean Rostand, dans Heures de culture française, évoquait sur la chaîne parisienne, le 1er octobre 1947, les gènes mortels, l'hérédité des caractères, les gènes létaux, de la souris à l'homme, l'influence de l'hérédité.
Un certain nombre d'éléments héréditaires ou gènes possèdent la singulière et fâcheuse propriété de déterminer la mort plus ou moins précoce lorsqu'ils se trouvent à l'état pur, c'est-à-dire en double exemplaire dans le patrimoine héréditaire de l'individu. De ces gènes, on dit qu'ils ont un effet mortel ou létal, ou encore qu'ils sont des gènes létaux. Prenons pour exemple le cas bien connu de la souris jaune. Il a été révélé, voici déjà une quarantaine d'années, par le grand biologiste français Lucien Quesnot, qui découvrait ainsi le premier gène à effet létal. Il est impossible d'obtenir la souris jaune à l'état pur. Autrement dit, il est impossible d'isoler une lignée de souris qui, unies entre elles, ne produiraient que des souris jaunes. Toujours, ces souris donnent à côté de produits jaunes des produits d'une autre couleur, grise ou noire par exemple. Or, ce fait est des plus embarrassants. Si en effet ces souris jaunes produisent des souris noires, c'est évidemment qu'elles portent en elles, à côté du gène de coloration jaune, le gène de coloration noire, lui-même à l'état masqué ou latent. Mais en unissant deux souris jaunes porteuses de gènes noirs, nous devrions avoir dans les générations suivantes une certaine proportion de souris jaunes pures et incapables de produire autre chose que des jaunes. Envisageons en effet le croisement de deux souris jaunes impures, porteuses tout ensemble du gène de coloration jaune et du gène de coloration noire. De part et d'autre, nous avons deux sortes de cellules reproductrices, moitié portant le gène de jaune et moitié portant le gène de noir. D'où, conformément aux règles mendéliennes classiques, 2 fois 2 soit 4 combinaisons possibles et également probables. Premièrement, la combinaison jaune-jaune qui doit donner naissance à des souris jaunes pures. Deuxièmement, la combinaison jaune-noir réalisée 2 fois qui doit donner naissance à des jaunes impurs, puisque par hypothèse, jaune domine noir. Troisièmement, la combinaison noir-noir qui doit donner naissance à des noirs purs. Soit au total, on doit avoir pour une souris noire, 3 souris jaunes, dont 2 impures et une pure. Or, au lieu de cela, nous n'avons que 2 souris jaunes pour une noire, et les 2 souris jaunes sont impures, unies ensemble, elles redonnent, comme les parents, 2 jaunes impures pour une noire, et ainsi de suite. Tout se passe en somme, comme si la combinaison jaune-jaune, celle qui aurait donné naissance aux souris jaunes pures, ne pouvait pas exister. En réalité, elle se forme, mais les embryons qui en résultent, les embryons portant les 2 gènes de coloration jaune, meurent en bas âge dans la matrice. Et effectivement, dans la matrice des souris jaunes qui ont été accouplées à d'autres souris jaunes, on peut retrouver les cadavres de ces embryons. Et la proportion de ces cadavres est précisément celle qu'elle doit être d'après les inférences théoriques. Le gène de coloration jaune chez la souris est un gène létal dominant, en ce sens qu'il détermine un caractère de pigmentation qui domine le caractère produit par les gènes correspondants et non létaux. Depuis cette mémorable découverte, on a mis en évidence un grand nombre d'autres gènes à effet létal, soit dominants comme le gène de coloration jaune, soit récessifs ou dominés. L'étude des gènes létaux est devenue un des chapitres fondamentaux de la génétique. On conçoit aisément que l'intervention de gènes létaux puisse provoquer une réduction de fécondité et apporter une perturbation dans les proportions mendéliennes théoriquement attendues. Les gènes létaux jouent vraisemblablement un rôle important dans la biologie des populations à l'état de nature, C'est peut-être à eux qu'on doit imputer l'extinction de certaines lignées, voire de certaines espèces. Parmi les gènes létaux à effet domino, nous citerons chez la souris le gène de la panachure dominante qui détermine le pelage tout blanc avec les yeux noirs. Les individus qui portent ce gène à l'état pur présentent vers le 16e jour de la vie intra-utérine une très grave anémie. L'animal meurt de 8 à 10 jours après la naissance. Il s'agit donc d'un gène sublétal plutôt qu'entièrement létal. De même, sont létaux ou sublétaux et à effet dominant les gènes suivants. Chez la souris, le gène de l'anourie qui supprime la queue. Chez le chien, le gène de la paralysie médullaire qui détermine la mort dans les 3 premiers mois. Chez les bestiaux, le gène d'Exter qui détermine le raccourcissement des pattes, en même temps un mauvais fonctionnement de l'hypophyse. Chez les poules, le gène creeper qui raccourcit les ailes et les pattes. La mort se produit durant l'incubation. Chez le canari, le gène de la huppe ou du plumage blanc dominant. Chez l'homme, la brachyphalangie, qui produit le raccourcissement des doigts par atrophie de la deuxième phalange, paraît elle aussi liée à un gène sublétal dominant. De l'union de deux cousins germains, atteints l'un et l'autre de cette anomalie bénigne, il naquit un enfant qui mourut quelques jours après la naissance. On pense qu'il avait dû recevoir de ses parents le double gène de brachyphalangie. Les gènes létaux dominés sont évidemment plus difficiles à reconnaître que les gènes dominants. On en connaît cependant un bon nombre. Chez le bœuf, le gène qui détermine le type télémarque, caractérisé par la tête en bulldog, les pattes très courtes et arquées. L'animal meurt précocement d'accident respiratoire. Les gènes de la cataracte congénitale, de l'absence de la mandibule, de l'absence de poils, etc. Chez le cheval, le gène de l'atrésie du colon, qui fut introduit au Japon par un étalon nommé Superbe. Chez le mouton, le gène de la coloration grise, le gène suppresseur des sabots. Chez le porc, le gène de la paralysie des pattes postérieures. Chez le lapin, le gène produisant la raréfaction des poils. Chez la souris, le gène qui détermine la coloration grise avec l'absence de dents. Chez la mouche du vinaigre, on connaît un grand nombre de gènes létaux et récessifs. Quand on détermine chez cet insecte des mutations artificielles par l'emploi des rayons X, c'est le plus souvent par transformation d'un gène normal en gène létal récessif. L'étude quantitative de la mutation artificielle se fonde même sur le dénombrement de ces mutations létales qui est rendu possible grâce à l'emploi d'une méthode particulière dont on doit l'invention au biologiste américain Muller. Chez l'homme, nous connaissons plusieurs tares létales récessives, notamment l'idiocie amaurotique familiale qui détermine la mort à l'âge de 2 ou 3 ans, le gliome de la rétine, le xéroderma pigmentosum, l'ictyose congénitale, caractérisé par la peau craquelée, rouge et saignante. Un exemple typique du rôle de la consanguinité dans l'apparition de cette dernière tare a été fourni par Claus. Une femme de constitution normale donne le jour à 5 enfants normaux. Puis, après la mort de son mari, elle procrée avec un autre homme 3 enfants affectés d'ictyose. Elle devait apprendre plus tard que cet homme était, sans qu'elle le sût, son demi-frère du côté paternel. L'ictyose congénitale entraîne fatalement la mort dans l'utérus ou au plus tard dans les 3 jours qui suivent la naissance. Beaucoup de monstruosités humaines sont dues à des gènes létaux et c'est également dans l'action de ces gènes funestes qu'on doit chercher, comme dit l'éminent biologiste Guyenot, la cause jusqu'alors insoupçonnée de bien des cas de stérilité, d'avortement, de naissance prématurée, de mortinatalité enfin, que l'on attribuait généralement à des causes intercurrentes ou à des infections, notamment à la syphilis. La multiplication des facteurs létaux ou sublétaux, combinée avec la diminution de la sélection naturelle, représente pour l'avenir de l'espèce humaine un danger particulièrement grave.
C'était Heure de culture française, l'hérédité des caractères, les gènes létaux, par Jean Rostand. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 1er octobre 1947. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».